Accent d'Europe, Clémence Pénard.
Hello, you have reached the Social Security Helpline. Please listen to the following options. You may make your decision at any time.
Bonjour à toutes et à tous. Grève nationale aujourd'hui contre le projet de réforme des retraites. Faudrait-il s'inspirer du modèle suédois? Souvent cité en exemple, il est non seulement très différent de ce qui est envisagé en France par Emmanuel Macron, mais il est aussi critiqué en Suède et notamment par l'un de ceux qui a contribué dans les années 90 à réformer le système, Carl Gustaf Scherman, l'ancien directeur de la Sécurité sociale, avec qui notre correspondante à Stockholm, Carlotta Morteo, a pu s'entretenir.
Du haut de ses 84 ans, il entend la France qui gronde.
Vous devez faire des réformes. Il faudra travailler plus longtemps, mais ne copiez pas le modèle suédois. Trouvez une solution française.
Le modèle suédois, c'est une retraite par points, sans âge légal de départ à la retraite. On peut s'arrêter dès 62 ans, bien avant l'âge pivot. Et c'est tout le problème, selon Carl Gustaf Scherman.
Au moment de la réforme, il fallait travailler jusqu'à 65 ans pour avoir une retraite décente. Aujourd'hui, c'est 68 ans. Mais ça a été très mal expliqué et beaucoup de gens ne peuvent pas travailler si longtemps.
De fait, les Suédois prennent toujours en moyenne leur retraite à 65 ans parce qu'ils arrivent à compenser la décote avec leur retraite complémentaire par capitalisation versée par l'employeur. 80% des employés y ont droit, les autres payent le prix d'une retraite publique en forte baisse.
Certains politiques en Suède ne veulent pas prendre leurs responsabilités et rénover le régime public. Ils disent « les partenaires sociaux et le marché doivent s'occuper du problème ». Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Le régime général doit être amélioré parce qu'il y a de gros problèmes pour ceux qui ont une mauvaise santé ou des carrières hachées.
L'ex-directeur de la Sécurité sociale suédoise regrette aussi la promesse faite il y a 30 ans de ne jamais augmenter les cotisations salariales, fixées à 18,5%.
C'est l'un des arguments du gouvernement français pour faire passer la pilule de cette réforme des retraites, la promesse d'une revalorisation des pensions pour les plus modestes à 1 200 € minimum. En Suisse, 1 200 € valent 1 200 francs suisses et c'est à peu près ce que peut toucher un couple de retraités en plus de sa retraite à une condition un peu bizarre. Il leur faudra divorcer juste avant. Les explications de Jérémy Lanche.
Le phénomène est connu de certains juristes et autres conseillers fiscaux. Mais c'est la RTS, la radio-télévision suisse, qui a mis la lumière sur ce procédé il y a quelques semaines. Elle a interrogé un couple de retraités qui s'est senti obligé de divorcer pour toucher 800 francs de retraite en plus. À peu près la même chose en euros. Un crève-cœur, a expliqué le mari, ou plutôt l'ex-mari à la RTS. On l'appellera Pierre.
Il y a 50 ans que nous sommes en couple. Tout est en augmentation, on ne sait pas comment on va passer l'hiver, mais c'est un peu gênant. Je ne veux pas dire qu'on a honte, mais presque. En arriver là, après 50 ans de mariage, quand c'est pour des raisons financières et pour pouvoir survivre, c'est malheureux et lamentable.
800 francs de retraite en plus, ce n'est pas rien pour un couple qui avait une pension de 3500 francs par mois. On est dans les limites du seuil de pauvreté en Suisse, parce qu'ici, un couple marié ne touche pas deux rentes à la retraite, mais une rente et demie seulement, un dispositif hérité de l'après-guerre et qui était censé favoriser les femmes qui n'étaient pas nombreuses à travailler à cette époque. Autant dire que la loi est totalement dépassée, surtout qu'elle pénalise les plus modestes qui n'ont que leur retraite publique, ce qu'on appelle le premier pilier en Suisse. Les autres retraités qui ont pu se constituer une retraite décente avec leur prévoyance professionnelle, le deuxième pilier, sont eux moins concernés, mais difficile d'avoir une vision claire du phénomène, les seniors n'ayant pas l'obligation de dire pourquoi ils divorcent, ni même l'envie, on l'imagine.
Autre autre dossier brûlant en France, en plus des retraites, la réforme de l'hôpital. Mais la pénurie des professionnels de santé touche tous les pays d'Europe. Comment revaloriser le métier d'infirmière ? En Belgique, la question se pose de plus en plus. Environ 5% des lits dans les hôpitaux du pays étaient fermés à la mi-janvier à cause du manque d'infirmières et d'infirmiers. Reportage à Bruxelles, signé Laure Broulard.
Dans le hall d'entrée du site Sainte-Élisabeth des cliniques de l'Europe à Bruxelles, une dizaine de patients attendent d'être reçus dans les différents services. Une affluence normale pour un mois de janvier, mais la triple épidémie de Covid-19, de grippe et de virus respiratoire a mis la pression sur les hôpitaux bruxellois et révélé un manque chronique de personnel soignant. À la mi-janvier, environ 350 lits sur 7200 étaient fermés à cause de la pénurie d'infirmières dans la région de la capitale belge. La faute à un marché de l'emploi très restreint, explique Arnaud Camp, directeur des ressources humaines des cliniques de l'Europe.
Nous sommes pour l'instant à la recherche de presque 85 équivalents temps plein au sein de nos cliniques. On a plus de 33 offres d'emploi dans différents services qui sont ouvertes, avec parfois des offres pour lesquelles on a besoin de une, deux, trois infirmières par service. Donc on est face à une situation qui est compliquée et à un marché de l'emploi qui est de plus en plus restreint. In fine, quand on trouve des candidats, c'est surtout qui partent d'un autre hôpital et donc ça crée le problème ailleurs. Donc il y a aussi de plus en plus de personnes qui arrêtent la profession.
Difficile donc de recruter du personnel de santé, mais aussi de le garder. Horaires décalés, perte de sens, épuisement lié à l'épidémie de Covid-19. Outre les nombreux départs à la retraite, les infirmières belges sont de plus en plus nombreuses à se reconvertir ou à partir pour le Luxembourg voisin, où les conditions de travail sont plus avantageuses. Une chose est sûre, il y a davantage de soignants qui quittent le métier que de nouveaux arrivants sur le marché du travail. Bénédicte Devlecher est chargée de l'accueil des nouveaux engagés et des étudiants aux cliniques de l'Europe.
Donc on essaye de les préparer à répondre à ces nouvelles responsabilités qui leur font peur, parce que c'est vrai, c'est prendre en charge un nombre de patients qui est de plus en plus grand et de nouveau des patients de plus en plus complexes. Pour ça, on organise des stages intégrés qui leur permettent de prendre en charge en mini-équipe d'étudiants un pôle de patients et de aussi assumer le rôle de chef à leur tour.
Les hôpitaux recourent également de plus en plus à des intérimaires, une solution loin d'être idéale selon Bénédicte Devlecher.
Très frustrant dans le quotidien actuellement. L'absentéisme, le manque de personnes, vous ne savez juste pas comment vous allez faire parce que vous arrivez parfois et vous êtes seul infirmier du service et vous êtes avec des intérimaires qui n'y connaissent rien à votre service et vous pouvez chaque jour répéter la même chose parce que ce ne sera pas le même intérimaire demain et c'est extrêmement fatigant.
Le problème est structurel et lié à une augmentation de la charge de travail selon Dan Lecoq, chercheur et président de la Fédération nationale des infirmières de Belgique.
Dans les hôpitaux, en fait, ce qu'on observe depuis les années 80, c'est une diminution du nombre de lits dans les structures hospitalières, avec corollaire une réduction de la durée moyenne de séjour des patients. Mais les gens sont toujours malades. On observe même un vieillissement de la population avec des personnes qui vivent avec plusieurs maladies chroniques et qui présentent des problèmes de santé de longue durée auxquels viennent se surajouter des épisodes aigus. Mettons tout ça ensemble et nous avons donc moins de lits, des durées de moyenne de séjour moins élevées et une intensification de la charge de travail liée à l'état de santé des populations. Bah, tout ça, ça fait un cocktail détonnant, évidemment.
Samia, tu vas aller faire les soins de Monsieur Lenoir ?
Oui.
Fin 2019, le gouvernement fédéral belge a lancé le fonds dit blouse blanche pour renforcer les équipes soignantes, 402 millions d'euros par an pour créer et soutenir l'emploi dans les hôpitaux. Mais à l'hôpital Molière-Longchamp, dans le sud de Bruxelles, Nathalie Cambier, infirmière depuis 30 ans, est toujours inquiète pour l'avenir.
Et vous avez peur que la situation s'aggrave ?
C'est une évidence. Tant que le gouvernement ne change pas sa politique et ne nous met pas en avant, ne nous soutient pas, ça ne changera pas. Et nous, les infirmières qui avons plus de 50 ans, nous avons vraiment très peur de vieillir et d'être prises en charge par des infirmières dans le futur.
Pourquoi ?
Parce que le personnel deviendra incompétent ou inexistant.
Plusieurs syndicats des secteurs sociaux et de la santé belge ont lancé une campagne de mobilisation pour dénoncer le manque de personnel en décembre dernier. Une manifestation nationale est prévue le 31 janvier.
Bonjour monsieur, à tout à l'heure. I don't know why they're scared of the Van Allen bell because it's simply hot. You'd be surprised how warm space is down amongst the clouds and so forth. It can get pretty cold and dank.
Sur fond de guerre en Ukraine, partout en Europe, les prix de l'énergie ont explosé, et au Royaume-Uni tout particulièrement. Avec une inflation à 10% et un gouvernement qui intervient peu pour aider les Britanniques face à la crise du coût de la vie, plusieurs initiatives ont donc été mises en place pour les moins aisés, notamment des banques de chaleur, on appelle ça des warm spaces, des endroits chauds où chacun peut venir boire un thé ou manger un bon repas. Le reportage de notre correspondante locale, Marie Billon.
Tous les jeudis matins, entre 11h30 et 12h30, une partie de la bibliothèque de Canada Water, dans le sud-est de la capitale, devient un warm space, un espace dans lequel tout le monde peut venir pour se réchauffer. Une dame aux longs cheveux gris a versé la poudre d'une soupe instantanée dans une tasse et y ajoute de l'eau chaude d'une des deux grandes bonbonnes placées sur un chariot à l'entrée de la bibliothèque. Elle retourne ensuite s'asseoir à une table où se trouvent d'autres dames qui ont déjà une tasse de thé entre les mains. Derrière, une jeune fille est assise seule devant son ordinateur, buvant un café chaud. Tout est gratuit, pas besoin de se justifier ou d'expliquer sa situation. Cathy a 59 ans, elle est assistante maternelle. Elle sort de la bibliothèque après avoir profité du warm space comme elle le fait chaque semaine.
J'ai mangé un biscuit et bu une bonne tasse de café. C'est sympa parce qu'on peut s'asseoir, parler à des gens. On n'a pas utilisé le chauffage à la maison, ça fait économiser de l'argent. Tout le monde a du mal à payer les factures. C'est pour ça que c'est bien d'avoir ce genre d'endroit où on peut parler de nos problèmes. On se sent mieux après.
Il y a plus de 5000 endroits comme celui-ci qui sont référencés comme des banques de chaleur ou des espaces chauds au Royaume-Uni. Il y a des bibliothèques donc, beaucoup de lieux de culte, mais aussi des salles communautaires, des clubs de sport, des locaux d'associations et d'organisations locales, comme le Jackson Lane, un centre culturel spécialisé dans les arts du cirque, installé dans une ancienne église dans le quartier de Highgate, au nord de Londres. Steve, maître de conférences de 45 ans, vient régulièrement ici pour travailler.
C'est un endroit très agréable, c'est très accueillant et il y a du chauffage. Il y a un radiateur juste derrière moi. À la maison, c'est terrible et il faudrait que je laisse le chauffage tout le temps pour que ça reste à une température correcte parce qu'il y a tellement de courant d'air. Mais quand je suis ici, au moins, je n'ai pas à mettre le chauffage. Je pourrais payer les factures, mais c'est un vrai coup de pouce de pouvoir venir ici pour moi.
Steve est donc là pour profiter du chauffage uniquement. Mais ceux qui ont encore plus de mal à boucler les fins de mois peuvent attraper un petit bout de papier accroché sur le mur de la gentillesse qui est à l'entrée. Anna Cox est la directrice exécutive du Jackson Lane Center.
Ce sont des tickets pour des boissons ou de la nourriture que des clients ont payé pour que d'autres personnes qui n'en ont pas les moyens puissent boire et manger. Il y a un ticket pour un croque-monsieur, un café long, une pâtisserie. J'en vois plusieurs pour un repas chaud.
Chaque banque de chaleur peut adopter le modèle qu'elle souhaite. Un théâtre au sud-ouest de Londres distribue par exemple des boissons chaudes à toute personne prononçant le mot de passe Hammersmith en passant commande. Esther Plath est la directrice de la campagne Warm Welcome, une des organisations qui centralise les informations sur les banques de chaleur.
Les critères que nous avons pour recenser les lieux de Warm Space, c'est qu'ils doivent offrir de la chaleur. En termes de température, mais aussi de boissons gratuites. Ils doivent être libres d'accès et être chaleureux. Ça ne peut pas être juste une pièce vide, il faut qu'il y ait un accueil amical. Aujourd'hui, nous avons recensé plus de 4100 espaces. Nous savons qu'il y a en moyenne 22 personnes qui utilisent chaque espace chaque semaine. Ça veut dire qu'il y a environ 100 000 personnes à travers le pays qui en profitent toutes les semaines.
Même une partie des fameux pubs anglais a choisi de rejoindre, sur certaines plages horaires, ce réseau de lieux où passer un moment au chaud, sans être forcé de consommer ou de payer pour boire un thé ou un café. C'est le cas de ce pub indépendant, The Prince of Peckham, dans le sud de Londres. Eva Arnez est la manager du pub.
Nous sommes un pub centré sur la communauté locale, un community pub. Ça a toujours été notre identité. Et les gens du quartier, en ce moment, ont du mal à payer leurs factures. Nous avons cet espace, il est ouvert à tous de toute façon, et ça ne nous coûte pas grand-chose de leur offrir des boissons chaudes. Donc pour nous, c'était une évidence. La banque de chaleur, c'est le mardi, entre 14 et 16 heures. Mais si certains arrivent avant ou restent au-delà, ce n'est pas un souci.
Le pub a reçu quelques centaines de livres sterling de subventions de la part des autorités locales pour son initiative.
Notre pub se situe dans un vieil immeuble. Donc la crise du coût de l'énergie nous impacte aussi. Cet argent nous aide à payer les factures d'électricité et des bûches pour le feu de cheminée. Normalement, il n'est allumé que le soir, mais le mardi, il est allumé toute la journée.
Ce mardi-là, le feu crépite, mais personne n'entre pour en profiter. Le concept n'est pas encore connu de tous et surtout de ceux qui en ont le plus besoin. Le pub, mais aussi les campagnes comme Warm Welcome, multiplient leurs efforts pour se faire connaître et aider ceux qui n'ont pas les moyens de se chauffer chez eux.
En plein cœur de Berlin, la cellule d'Alexei Navalny reconstituée. Un bloc de béton a été installé la semaine dernière en face de l'ambassade de Russie. C'est l'une des actions menées dans le cadre d'une campagne internationale pour demander sa libération. Emprisonné depuis 2 ans dans des conditions éprouvantes, l'ennemi numéro 1 du Kremlin poursuit son combat. Anastasia Becchio.
Je n'ai peur de rien et je vous demande aussi de ne pas avoir peur. Merci beaucoup. Allons maintenant au contrôle des passeports.
Les dernières paroles d'Alexei Navalny en liberté à son arrivée à l'aéroport de Moscou de retour de sa convalescence en Allemagne. Le défenseur des droits de l'homme russe Lev Ponomarev.
Il a fait un acte héroïque en décidant de rentrer en Russie, parce qu'il est bien sûr l'opposant personnel de Vladimir Poutine, pourvu qu'il survive.
De sa prison à régime sévère, Alexei Navalny est régulièrement envoyé en cellule disciplinaire ou d'isolement. Il y a fait 11 séjours en 2 ans pour des infractions mineures au règlement, comme laisser un bouton de sa chemise déboutonné.
Mon père a passé plus de 3 mois en cellule disciplinaire. C'est une petite cellule de 2 mètres sur 3, qui ressemble plus à une cage pour un homme qui mesure près de 2 mètres.
Si les violences en prison ne sont pas un fait rare en Russie, Alexei Navalny, celui dont Vladimir Poutine refuse de prononcer le nom, semble avoir droit à un traitement particulier selon le politologue Fedor Krasheninnikov.
Navalny, c'est le prisonnier personnel de Poutine, c'est son masque de fer. Le président russe considère Navalny comme un membre de l'élite occidentale. Angela Merkel est venue le voir quand il était à l'hôpital. Et comme dans son imaginaire, Navalny est vu comme faisant partie du clan occidental, il le harcèle, un peu comme avec une poupée vaudou.
Amaigri, visiblement éprouvé par les journées passées à l'isolement, Alexei Navalny continue de se battre pour faire reconnaître ses droits les plus élémentaires et intente des procès à l'administration pénitentiaire. Loin de se faire intimider, il profite de ses audiences pour lancer des messages politiques, comme ici contre la guerre en Ukraine.
Vous ne me ferez pas taire avec votre cellule d'isolement. Poutine associe des centaines de milliers de personnes aux crimes qu'il commet. Il est comme la mafia qui lie à elle par le sang des centaines de milliers de personnes.
L'opposant le plus sérieux à Vladimir Poutine continue à exister politiquement, même du fin fond de sa prison, estime un autre détracteur du président russe qui a préféré fuir la Russie pour éviter le sort d'Alexei Navalny, l'ancien député Dmitri Gudkov.
Bien sûr, il est entravé, mais en continuant à rester actif, il montre à ses partisans qu'il continue à résister envers et contre tous. Et cela donne de l'espoir à beaucoup de personnes.
Ne pas se faire oublier, continuer à exister, une gageure pour Alexei Navalny qui parvient à donner régulièrement des nouvelles de sa vie derrière les barreaux dans des messages transmis par ses avocats où il manie l'humour mordant et l'ironie. Pour ses militants les plus actifs qui ont dû choisir entre la prison et l'exil, le comportement de l'opposant reste une source d'inspiration. C'est le cas pour Fedor Krasheninnikov, parti vivre en Lituanie.
Il a un don, c'est un vrai meneur politique et même dans la situation qu'il vit aujourd'hui, il essaie de résister parce qu'il comprend que s'il se mettait à écrire « Je ne vais pas bien, je déprime », il n'améliorerait pas son sort et il anéantirait la foi de ses partisans. Même étant en prison, il s'efforce d'afficher l'optimisme pour montrer aux gens qu'il faut continuer le combat.
Durant les mois qu'il a passé en convalescence en Allemagne, Alexei Navalny a réussi à recueillir les confessions d'un membre de l'équipe des services de sécurité russe responsable de son empoisonnement. Un réalisateur canadien l'a suivi dans sa quête et tourné un film aux allures de thriller en lice aujourd'hui pour l'Oscar du meilleur documentaire. Une récompense qui aurait de quoi irriter un peu plus le Kremlin.
It's very simple. Never give up.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site et sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. À bientôt.